session sur le jugement de sagesse par le père Philippe Saint-Jotard le 6 mai 1988.
Comment la contemplation ordonne-t-elle les différentes manières d'être ou de vivre de Dieu? Ont-elles une perfection plus ou moins grande les unes par rapport aux autres? S'il y avait du plus et du moins, il n'y aurait plus la simplicité absolue. Ce qui peut se faire, c'est que les rationes que nous saisissons, elles, sont plus ou moins proches de l'être. Et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir un ordre. L'ordre se prend à partir de nous, et non pas à partir de Dieu. C'est la différence entre l'ordre que nous pouvons découvrir dans les manières d'exister de Dieu au niveau métaphysique, au niveau théologie naturelle, au niveau théologie scientifique et au niveau théologie mystique. Il y a trois ordres différents. Au niveau théologie naturelle, au niveau philosophie naturelle, qui nous intéresse en premier lieu, ici. C'est ayant découvert l'existé de Dieu, l'existé d'un être premier nécessaire, nous pouvons tout de suite nous poser la question, comment pouvons-nous préciser l'existé de cet être premier? Et nous pouvons dire tout de suite que le premier caractère de son exister, c'est la simplicité qui exprime le plus sa transcendance. Et nous pouvons chercher à contempler Dieu dans cette transcendance même. Et grâce à cette contemplation, nous pouvons, à partir de là, découvrir que dans toutes les réalités créées autres que Dieu, il y a une composition. Aucune créature n'est simple, même les anges. Aucune créature n'est simple. Les anges, le philosophe ne peut pas en parler beaucoup, mais peut dire, selon des traditions religieuses, il y a des êtres qu'on appelle les anges, qui sont des substances séparées. Aucune impossibilité, métaphysiquement parlant, qu'il y ait des anges. Le philosophe ne peut pas l'atteindre par démonstration. Les anges ne se démontrent pas. L'existence des anges ne se démontre pas. Parce que l'existence des anges relève du bon plaisir de Dieu. Comme l'existence de l'homme. Mais l'existence de l'homme, pas besoin de le démontrer. J'en ai l'expérience. Et que Dieu a même multiplié l'existence des hommes. L'existence des anges m'est révélée. C'est la foi. Le philosophe ne peut rien dire. Il peut dire, c'est possible. C'est tout. C'est la simplicité qui reste la première manière d'exister, la plus caractéristique de Dieu, de l'être premier. Ceci aussi bien pour la philosophie est une philosophie d'un regard sur Dieu, donc une théologie naturelle, que une théologie spéculative, comme celle de saint Thomas. Dans une théologie mystique, ce serait l'amour. Le premier attribut de Dieu, c'est l'amour. Et on voit tout sous le point de vue de l'amour. Et là, on saisit bien les deux extrêmes, si vous voulez, du mystère de Dieu. Simplicité et amour. Ou les deux sommets. Donc, il y a un ordre que nous pouvons saisir. À partir de nos connaissances, à partir de notre manière de comparer l'être premier et l'être fini que nous sommes, et de comprendre alors progressivement cet ordre. Nous l'avons fait, c'est pas la peine de le refaire maintenant. Mais je vous donne tout de suite pour que vous compreniez. Saint Thomas nous dit ceci. Je pars de saint Thomas puisque ça existe. Donc, et j'ai le droit de le regarder. En philosophe, mais je sais que c'est de la théologie. Il dit simplicité, perfection, bonté, infini, omniprésence. Ça, c'est l'ordre de la théologie naturelle scientifique, l'ordre de la théologie scientifique de saint Thomas. Puis-je, au niveau proprement théologie naturelle, prendre le même ordre? Oui, le philosophe se sert toujours de ce qui a été dit avant. Ça l'aide. Et que dans ce domaine-là, on est quand même de pauvres myopes. Bon, la simplicité, elle est première. Et je justifie pourquoi la simplicité est première. Dans la manière d'exister, ce qui caractérise le plus ce que j'expérimente, c'est ma complexité. Et je vois tout de suite la différence. Simplicité, c'est la transcendance de Dieu. C'est par la simplicité que je saisis le mieux la transcendance de Dieu. Ensuite, je comprends que c'est la perfection. Pourquoi ? Parce que de fait, pour nous, il y a une antinomie très forte entre simplicité et perfection. Nous ne pouvons être parfaits qu'en acceptant une complexité. Toujours le dilemme de notre vie. Être simple ou parfait. C'est le dilemme de vos études. Il faut étudier des quantités de choses. Avoir un grand panorama. Étudier toute l'histoire de la philosophie. Au contraire, pénétrer dans la vérité. Alors, il y a des spiritualités de la simplicité, il y a des spiritualités de la perfection. La spiritualité de la simplicité, vous voyez bien, c'est sûrement saint Jean de la Croix. Rien, la transcendance. La spiritualité de la perfection, ce serait beaucoup plus saint François de Sales. On voit très bien la différence de spiritualité. La spiritualité française du Pérolier est beaucoup plus le point de vue de la perfection. Puis, la bonté, je comprends très bien. En effet, je crois qu'il y a les trois. Je réfléchis un peu. Causalité formelle, la simplicité, causalité efficiente, causalité finale, c'est très curieux. Par rapport à la structure de l'être de Dieu, la causalité matérielle, elle est niée. Pas de causalité matérielle en Dieu. Mais c'est vrai que la simplicité caractérise la manière d'être de Dieu en tant qu'il est cause formelle de tout. La perfection, cause efficiente. Et une sainteté d'œuvre implique la perfection. Une sainteté purement contemplative implique la simplicité. Puis, la bonté. Alors, ensuite, l'infini. Oui, je veux bien. L'infini, c'est essayer de transposer en Dieu la causalité matérielle. Ah, avec quelques points d'interrogation. Dieu est immense. Voyez la quantité. Il y a un certain aspect entre l'infini de Dieu et la causalité matérielle. Aucune limite. Pas de limite en Dieu. L'omniprésence. Ah, vous voyez, c'est là où je vois tout de suite que l'omniprésence, au point de vue théologique, je peux en parler tout de suite parce que le Dieu dont je parle, au point de vue de la foi, c'est le Créateur. Alors, faut-il parler tout de suite de la création ou d'abord regarder ces grands attributs de Dieu ? Et la création, je ne peux en parler qu'après avoir découvert qu'en Dieu, il y a sagesse et toute puissance. Donc je ne peux pas parler de l'omniprésence de Dieu qui présuppose la création. Je parlerai immédiatement après l'infini de l'immutabilité de Dieu. Si Dieu est infini et qu'il est parfait, et qu'il est simple, pas de mouvement en Dieu. Non mutor. Je ne bouge pas. Dieu a fait votre stabilité. Je ne peux pas bouger, Dieu. Non mutor. Pas de mouvement en Dieu. Pas de changement en Dieu. Il est immuable. Et après l'immutabilité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a immédiatement l'éternité. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'unité. L'unicité de Dieu. Ou l'unité de Dieu. Ça, je peux très bien comprendre qu'à partir de là, je me demande ce que les créatures physiques, ce que le monde physique, peut nous dire de Dieu négativement. Le monde physique est limité, Dieu est infini. Le monde physique est mobile, Dieu est immobile. Le monde physique est dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Et je pourrais me poser la question aussi du lieu de Dieu. Les créatures physiques sont dans un lieu. Dieu n'a pas de lieu. Et nulle part. Et alors ce n'est pas la présence d'immensité, ce serait Dieu et nulle part. Vous ne pouvez pas mettre un lieu pour Dieu. Vous voyez, à partir de là, c'est le monde physique. Qu'est-ce que nous dit le monde physique de Dieu ? Le monde physique, c'est notre corps. Que nous dit notre corps ? Qu'est-ce que notre corps peut dire de Dieu ? Le corps est limité, le corps est localisé, le corps est capable de mouvement, le corps est dans le temps. Je vois que Dieu est au-dessus. Puis après, c'est la vie. Et lorsqu'il s'agit de la vie, c'est l'intelligence. Sagesse, c'est la volonté. Et après la vie, qui est le point de vue de la philosophie du vivant, c'est l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique peut nous dire de Dieu ? Dieu est bienheureux. Dieu est amour. peux me poser la question, qu'est-ce que la politique peut me dire de Dieu? Et qu'est-ce que la philosophie de l'art peut me dire de Dieu? Oui, toutes les parties de la philosophie sont mobilisées pour parler de l'être premier. Et une fois que j'ai découvert ces différentes manières d'exister de Dieu, je peux les contempler et dans la contemplation, regarder l'homme dans la lumière. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous regardons l'homme dans la lumière de la simplicité. Dans la lumière de la simplicité de Dieu. Dans la lumière de la perfection de Dieu, dans la lumière de la bonté de Dieu, dans la lumière de l'infini de Dieu. Vous voyez, je redécouvre ce qu'il y a de juste dans l'ontologisme. Je connais la finitude de la créature par l'infini. Jugement de sagesse. Et c'est très vrai. L'infini de Dieu me dit quelque chose sur ma finitude. L'immutabilité de Dieu me dit quelque chose sur ma mobilité. Que Dieu soit nulle part me dit quelque chose sur ma localisation. Je suis un pauvre être localisé. L'éternité de Dieu me dit quelque chose sur ma temporalité. Je suis né à telle date. Très embêtant. Parce que tout ce qui était avant, c'était du passé. Et donc je ne l'ai pas vécu. Et tout ce qui vient après, c'est du futur, et je ne l'ai pas encore vécu. Ce que j'aimerais d'être là au retour du Christ. Et je suis dans le temps, je ne suis pas sûr. Si j'étais éternel, je serais sûr. Je serais sûr de l'accueillir un jour. Tandis que je ne peux pas. Je suis dans la temporalité. Oui. Tous les attributs de Dieu me permettent de contempler quelque chose de l'homme. Et alors là, je comprendrai au terme l'homme à l'image de Dieu. Vous voyez, on a parlé de l'homme comme petit cosmos par rapport au grand cosmos. On pourrait parler de l'homme miroir de Dieu, comme l'homme reflet de Dieu. Comme l'homme reflétant tous les attributs de Dieu. Alors là, vous voyez, ça ce serait la réponse à Freud, à Darwin. Puisque vous savez bien ce que dit Freud. Hein. Freud dit que les pères de l'Église ont exalté l'homme en le mettant au centre de l'univers. L'homme est l'être le plus parfait, l'exister le plus parfait. Il est au centre de l'univers. Il est au sommet de la vie. Et l'homme est aussi, alors, capax dei. Il est ordonné à la vision de Dieu. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Voilà les trois grandeurs de l'homme, telles que les pères de l'Église et une tradition philosophique l'a montré. Alors Freud dit, les temps modernes ont détruit cette triple dignité de l'homme. La terre n'est plus le centre de l'univers. Donc l'homme n'est plus le centre de l'univers par son corps. Il est une partie. La terre tourne autour du soleil. C'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Donc il y a une dignité inférieure. quand on disait que le soleil tourne autour de la Terre, pas mal, satellite. Il n'y a pas du tout, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Première dignité, renversée. Deuxième dignité renversée, c'est l'évolution. L'homme, animal supérieur, un animal, le terme de l'évolution. Mais le patrimoine de l'homme, c'est pas fameux. Un animal. Remontez loin, vous retrouverez votre ancêtre. Et vous trouverez votre ancêtre ne vous sourit pas. Puisque l'animal ne sourit pas. Donc le patrimoine de l'homme, c'est pas fameux. Et puis l'homme, complexe d'Oedipe, un complexe de Capax Dei. Oui, les trois dégradations. C'est assez beau, vous savez, quand Freud dit ça. Ça ponctue très bien les trois dégradations de l'homme. Et la dernière, complexe d'Oedipe.
Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont les idéologies athées qui l'ont...
Oui. Il ne le prend pas comme les... Il le prend comme les... Vous voyez, au cours de l'histoire, on a rabattu l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, c'était de se considérer comme le centre de l'univers. Le corps de l'homme, c'est vrai, c'est le lieu par excellence de l'univers. Le sommet du vivant. Esprit. Sommet transcendant. Tandis que lui, mais sommet immanent. Et puis, le point de vue Capax Dei. Mais les idéologies aboutissent à ça, c'est sûr. Alors, voyez, on aurait, au terme de cette vision de sagesse que nous essayons de comprendre, l'homme, vous voyez, le chef-d'œuvre de Dieu, puisqu'il est le reflet de Dieu. Il reflète toutes les manières d'exister de Dieu. C'est ça qui est très étonnant. Et toute la grandeur de l'homme, c'est ça. C'est d'être ce reflet. Capax Dei. Ça, c'est pour répondre à la question. Il y avait tout à l'heure une question qui avait été posée, et j'ai oublié le papier. Si vous la savez par cœur, votre question. Oui, à propos de la liberté du nécessaire.
Oui, c'est par rapport à la notion nécessaire qu'on a mise en philosophie. Est-ce que la nécessité qu'on a mise en philosophie n'implique pas toujours une limite par un lien nécessaire avec lequel on ne serait pas dans notre milieu?
Autrement dit, la notion de nécessaire est analogique. Et ça, c'est vrai. Alors, comprenez bien ça, parce que c'est très important de comprendre que la philosophie s'achève dans ce jugement de sagesse, et par le jugement de sagesse, on répond à toutes les nostalgies de l'ontologisme. Très extraordinaire, ça. De façon merveilleuse. Oui, si on faisait cela, parce que ça n'a pas été fait, on s'arrête à la métaphysique. Les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, on est déjà assez fatigué d'avoir fait la métaphysique, alors on s'assied. Et on dort. Les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, puis après, toute cette contemplation de Dieu, que l'intelligence humaine est capable. Et après, le jugement de sagesse. C'est quand même quelque chose d'été. Mais toute la partie la plus intéressante de la philosophie, on l'a laissée tomber. Qu'on doit essayer d'y entrer progressivement. C'est difficile puisque ça présuppose tout le reste. Et que tout le reste est déjà tellement surabondant qu'on se dit c'est suffisant. Et c'est pourtant là où on comprend l'intérêt. La philosophie est faite pour ce jugement de sagesse. Bon, alors, regardons le nécessaire. Premier, génétique. Dans l'ordre génétique. Où est-ce que vous trouvez en premier lieu la notion du nécessaire pour nous? C'est très intéressant. Vous allez me dire, c'est les causalités. Je crois. Ma première notion de nécessaire, c'est l'universel. L'être de raison qui est l'universel. L'universel est nécessaire. Vous voyez, selon la cause formelle, vous définissez quelque chose, c'est nécessaire. Le chat correspond à la définition du chat. Et tous les petits chats sont dépendants nécessairement de cette notion universelle. Vous voyez, les anciens cherchaient le fondement de la science, la philosophie grecque. C'est toute la grande question de Platon. Sur quoi se fonde l'épistémé? Sur quoi se fonde le savoir? Et c'est alors les formes en soi. Pour Platon, le nécessaire, c'est les formes en soi. Pour nous, pour Aristote, c'est l'universel. Quand ma pensée se heurte à l'universel, elle se heurte à quelque chose de nécessaire, au-delà du contingent. Vous voyez, c'est l'au-delà du multiple. Le multiple contingent, c'est l'universel. C'est pour ça qu'on aime tellement de s'installer dans l'universel. Puis après, dans l'universel, qu'est-ce que vous saisissez en second lieu? Les principes. Ah, les principes sont nécessaires. Le propre du principe. Vous avez donc deux degrés de nécessité. Tout de suite. La nécessité au niveau de l'universel, c'est abstrait. Vous êtes obligé de vous abstraire pour découvrir le nécessaire. Vous n'avez jamais touché le nécessaire. Jamais. Vous serez électrocuté. Vous touchez le relatif, le contingent, le sensible, la qualité. Vous n'avez jamais touché le nécessaire. Alors comment ça se fait que ça s'installe en vous et vous parlez du nécessaire? L'universel abstrait. Contingent. Et donc, je veux dire, au-delà du contingent, le premier nécessaire absolu, c'est le genre. Donc, génétiquement, c'est l'universel générique. L'universel générique. L'universel le plus étendu et le plus pauvre. Curieuse, hein? Que l'universel le plus riche, c'est quoi? C'est l'espèce. Et vous n'avez qu'un seul universel spécifique, l'homme. L'homme, c'est l'universel spécifique, l'espèce. C'est la seule définition logique que vous avez. L'homme. C'est suffisant, il y en a une. Animal raisonnable. Ça vous avance beaucoup. Et c'est la seule définition que vous avez. Aucune autre. Je vous défie de trouver une autre définition. Il n'y a qu'une seule définition. animal raisonnable. Ça suffit pour que la science puisse exister. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de science, de vraie science, de science au terme propre qui est définie. Il n'y a qu'une seule définition. Tous les autres, c'est des approximations. C'est qu'à la place de la différence spécifique, vous avez des propriétés. Vous avez des accidents. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'au fond, l'univers, le nécessaire, au niveau de l'être de raison, le nécessaire parfait, c'est l'espèce. Puis, vous avez les principes propres. Quel est le principe propre le plus parfait? L'être en acte. L'être en acte. L'acte, c'est-à-dire, vous devriez dire l'être en acte et ou l'acte. L'être en acte et le principe selon la fin. De ce qui est. C'est le plus parfait. C'est là où c'est le nécessaire existant. Là, c'est le nécessaire non existant abstrait. Le nécessaire existant dans toute sa perfection, c'est l'être en acte, principe selon la forme de ce qui est. C'est très important, ça. Oui.
Le troisième capitaux, c'est ce qui a alternatif avec le capitaux.
Oui, mais c'est celui-là le plus. Oui, tous les quatre capitaux. Nous donne le point de vue du nécessaire. Vous voyez, un lien de nécessité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir tout de suite les deux extrêmes. Personnellement, vous voyez, le premier, non plus selon l'ordre de nature, mais le premier selon l'ordre de nature. Pour moi, le premier selon l'ordre de nature, au-delà de ma compréhension, c'est l'acte pur. L'être nécessaire. Et vous voyez, si je n'avais pas la saisie de ce principe propre, je ne pourrais pas parler de Dieu. L'être nécessaire, acte pur. Qui est le nécessaire, le plus absolu. Il faut avoir la connaissance de ces deux nécessaires pour poser le troisième. Un, deux, trois. Trois grandes modalités nécessaires. C'est les trois, vous voyez, trois niveaux, si vous voulez, de nécessité. La nécessité formelle, la nécessité principielle du principe de la fin. C'est ce qui relève de l'acte. Et puis la nécessité de la manière d'exister, Dieu. Alors, à partir de là, c'est facile de comprendre les autres nécessités, vous voyez. Mais c'est les trois grands, trois niveaux. Bon, alors vous voyez que le nécessaire appliqué à Dieu a ceci de très particulier, que c'est un nécessaire qui regarde une réalité existante. c'est la seule réalité existante nécessaire. Et on comprend pourquoi alors Descartes l'a appelé causa sui. Alors ça, c'est très intéressant de voir pourquoi Descartes l'appelle causa sui. Parce que pour Descartes, la nécessité est liée à la cause. Alors, si Dieu est nécessaire, il est causa sui. Parce qu'il a toujours en lui la source de son être. Et s'il a toujours en lui la source de son être, ça ne peut pas tarir. Si vous avez en vous la source de votre être, vous ne pouvez pas tarir, donc vous êtes nécessaire. C'est à cause de ça qu'il dit causa sui. Vous voyez, c'est au point de vue psychologique. Il a peur de tarir. Il a peur de plus avoir d'eau. Alors il a la source toujours avec lui. S'il a toujours la source avec lui, il ne peut pas tarir. Très très cru, c'est métaphorique ça. Dieu est l'être nécessaire parce qu'il est premier. Donc il ne dépend d'aucun être. Il est nécessaire dans sa manière d'exister. Le principe est nécessaire, non pas dans sa manière d'exister, mais en lui-même. Et l'universel est nécessaire, formellement parlant, intentionnellement parlant, être de raison. Alors, cette nécessité, elle est unique. Il n'y a que Dieu qui est nécessaire dans sa manière d'être. Toutes les autres réalités ne sont pas nécessaires dans leur manière d'être. Puisque nous sommes des êtres participés. Nous sommes des êtres contingents de notre manière d'exister. Donc Dieu seul est nécessaire dans sa manière d'exister. Et donc la nécessité de Dieu a un caractère tout à fait particulier. Une nécessité unique dans sa manière d'exister. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire plus que ça. Il est nécessaire dans sa manière d'exister. Aucune autre réalité n'est nécessaire dans sa manière d'exister. Voilà la grosse différence. Nous sommes des êtres participés, donc contingents. C'est qui pourrait ne pas exister. Et par le fait même qu'on pourrait ne pas exister, on n'est pas nécessaire dans notre exister. Tandis que Dieu est absolument nécessaire dans son exister. L'ipsum est ses substances. Oui, alors vous aviez dit après.
Mais justement, la nécessité, est-ce que ça ne montrerait pas que la nécessité de nous à l'expérience est un peu plus fort, un lien.
Là.
Un lien qui a limite. La nécessité de nous à l'expérience entre. Un lien toujours nécessaire entre la cause et le fait. Est-ce que Dieu est découvert comme une nécessité absolue qui n'a pas de limite.
Qui n'a pas de cause. Il est. C'est l'existé de l'être. C'est l'existé de l'acte. Oui, c'est pour ça que je vous dis, si on ne saisit pas cette nécessité-là, je ne peux pas parler de celle-là. Oui, la plupart du temps, on ne saisit que cette nécessité-là. Tous ceux qui n'ont pas saisi la métaphysique, et ils sont multiples, hein, on l'a bien dit hier, c'est pas sur le marché. Il y a un stand métaphysique, mais il n'y a plus personne. Alors là, il y a un carré stand métaphysique, il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce que fait ? On n'a plus que cet universel-là, on n'a plus que ce nécessaire. Ce nécessaire abstrait, il n'existe pas en Dieu. Ça, c'est le nécessaire du vécu. Le vécu nécessaire, c'est l'universel. Cherchez dans votre vécu. Le seul nécessaire de votre vécu, c'est l'universel. C'est pas très riche. Oui.
Mais même si ce n'était pas son intention, est-ce que ce n'était quand même pas le blocage que vous avez justement professeur hier?
Que le.
Que vous avez professeur hier, présence de l'absolu, en fait, est-ce qu'elle n'est pas conçue comme un universel, même si je ne sais pas si on a besoin d'attention.
Oui. Selon l'ontologisme, de façon classique, j'allais dire, c'est parce que la présence d'immensité de Dieu, du Créateur, fait que Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Donc, il est plus intelligible à moi-même que je ne suis intelligible à moi-même. Et donc, l'infini est plus intelligible que le fini. Et donc, par le fait même, c'est Dieu qui s'impose pour comprendre tout le reste. Il le met jusqu'à la signification. Vous l'avez vu. La norme de la signification, il l'a dit. La norme de la signification, c'est l'absolu. C'est pas vrai. La petite araignée a sa signification. Cette craie, elle a sa signification. Une œuvre d'art a sa signification. Le langage a sa signification. L'universel a sa signification. Indépendamment de l'absolu. Vous voyez, toujours cette même confusion, ou disons, ce manque de distinction entre le point de vue quantitatif, porteur de la signification, et le point de vue existentiel, qui alors, lui, se réfère évidemment à l'être premier. C'est toujours ça. C'est très très curieux. Et on retrouve alors là vraiment quelque chose. Mais c'est ça qui est très curieux, c'est que il dit ça et d'autre part, il donne la définition de la vérité. Donc il y a une contradiction. Pour nous, il y a deux espèces de nécessités. Il y a la nécessité universelle. C'est pour ça que j'aime bien dire. Vous voyez, c'est très important. Parce que c'est la signification, elle est là. L'universel repose sur la quantité. L'universel générique, qui a sa propre signification. Une signification formelle, homme a sa signification. Indépendamment de l'absolu. C'est vrai. Indépendamment de l'absolu. Quand je définis l'homme, je ne définis pas Dieu. Vous savez bien, c'est en face de ça que réagit violemment Feuerbach. En face de ça que réagit violemment toutes les idéologies athées. Il faut libérer l'homme de l'absolu. Il faut lui redonner sa signification. C'est pour ça que cette position de l'ontologisme ne répond pas à l'idée, aux idéologies athées. Il faut revenir à cette position d'un premier nécessaire dans l'ordre génétique, l'universel, et un premier nécessaire dans l'ordre existentiel, l'acte. Il y a deux pôles de nécessité. Un formel, l'autre existentiel. Il n'y a pas 36. Et les deux se joignent en Dieu. Alors, c'est très vrai. Ce serait une manière de prouver l'existence de Dieu, si vous voulez. Vous avez deux pôles de nécessité. Mais il faut bien qu'ils s'unissent. Ils ne peuvent venir qu'en Dieu. Le pôle de nécessité du genre, le pôle de nécessité de l'acte, l'être en acte. Ces deux pôles de nécessité sont, dans toutes les réalités que je constate, divers. L'universel n'est pas le singulier. Alors l'être en acte est le singulier, votre problème hegelien, tout simplement. Rejoindre l'universel et le singulier. Je pourrais le reposer d'une autre manière, qui serait peut-être très intéressante pour les modernes. voyez, les deux pôles de la nécessité. Ces deux pôles de la nécessité appellent de se rejoindre dans un être absolu que nous appelons Dieu. Ce serait la preuve de l'existence de Dieu par la nécessité. Et vous voyez, c'est ça qu'il voulait dire quand il disait le dialogue avec les savants. Les savants cherchent le nécessaire. Alors là, ils comprendraient cette preuve. Et c'est vrai que le nécessaire, pour moi, se présente de deux façons. Du moins, le nécessaire se présente à moi à travers l'universel, à travers l'être en acte. Est-ce que vous voyez bien ça ? C'est intéressant uniquement pour essayer de comprendre, justement, ces deux pôles de nécessité.
Oui. Est-ce que le jugement d'existence se rejoint là ?
Ah, toujours. Toujours. Oui, parce que le premier mode de l'acte, c'est l'essai, c'est l'exister. Vous voyez, si je prends les cinq modes d'acte, le premier, c'est l'exister. L'exister est l'acte d'être. Donc le jugement d'existence touche cet acte. Et l'appréhension touche l'universel. Vous voyez, les deux, toujours. Je possède les deux en moi. Oui.
Et est-ce que la non-adéquation entre la contingence de la réalité et la nécessité de son principe, ça ne serait pas une voie d'accès aussi, peut-être équivalent de la troisième voie de Saint Thomas ?
La non-contingence.
Toute réalité est contingente et pourtant elle porte en elle du nécessaire.
Oui, tout à fait, oui. Elle porte en elle un nécessaire formel, créditatif.
Mais est-ce que ça peut être une voie d'accès ?
Ontologiquement parlant, oui. Mais vous voyez que pour nous, cette voie d'accès, qu'est-ce qu'elle est vraie ? Je dirais, c'est l'homme qui, par son intelligence, en pensant l'acuité, lui donne ce mode universel. Alors, est-ce que la pensée de l'homme, capable de donner à l'acuité ce mode universel, et donc ce mode nécessaire ? Est-ce que c'est le signe qu'il faut nécessairement qu'il existe un être nécessaire ? Comme signe. Oui, c'est un signe. Oui, ce serait comme signe de dire la logique est le signe de l'existence de Dieu. Ah, très belle thèse. La logique est le signe de l'existence de Dieu. Je ne dis pas que la logique me permet de poser l'existence de Dieu, mais elle est le signe. Tous les logiciens ont la nostalgie de Dieu. Une autre manière de répondre pour le père Boransky. Tous les logiciens ont la nostalgie de l'existence de Dieu. Puisque les logiciens ne quittent pas l'universel. S'il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de logique. La logique repose sur l'universel. C'est le fondement de toute logique. C'est pour ça qu'il y a deux types de logique. Il y a la logique de l'universel et la logique d'un lien de nécessité de deux propositions. La logistique et la logique mathématique. Il y a la logique d'Aristote qui est la logique de l'universel. Et la logique mathématique qui est la logique du rapport. Qui est la logique stoïcienne, c'est la logique du rapport. S'il fait sec aujourd'hui, demain il pleuvra. Un lien de nécessité. S'il y a du beau soleil aujourd'hui, demain il pleuvra. Dans notre pays de contingence. Parce qu'il faut une alternative. S'il pleut aujourd'hui, demain il fera beau. Mais c'est un lien de nécessité. Le si, vous voyez, qui oblige de poser l'autre. Bon.